Aujourd'hui, la job de président m'a emmené à écouter encore plus, à écouter les gens autour de moi, à écouter ce que nos membres et clients disent, à écouter le bruit un peu autour, puis à m'ajuster, à adapter, à réaligner, à repositionner, à faire un pas en arrière, un pas de côté. Donc, c'est un peu relié à écouter tantôt, mais plus personnel sur notre posture d'entrepreneur, sur notre posture de leader. Donc, comment il faut que je change des choses peut-être dans mes soft skills, dans ma façon de communiquer. Alors, d'être ouvert et d'accueillir le feedback, pas de se fermer, mais d'essayer d'être une meilleure version de nous-mêmes.
Nous allons entrer résolument dans le monde financier de demain et prendre pleinement le virage numérique.
Vous venez d'un milieu modeste, votre père était électricien, votre mère couturière.
Le mouvement Desjardins, c'est 400 milliards de dollars d'actifs.
Monsieur Cormier a opéré au sein de Desjardins plusieurs changements transformationnels en matière de gouvernance.
Qu'est-ce qui vous motive autant?
Mais innover, c'est aussi adopter de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons d'agir.
Est-ce que dès le départ, quand vous êtes arrivé dans le mouvement Desjardins, vous avez vu dans votre futur l'envie de vouloir grimper les échelons?
Absolument pas, là. J'ai commencé comme caissier en 1992 dans un programme qui m'a emmené par la suite à devenir directeur de compte entreprise. Et j'ai fait du financement aux entreprises pendant les 7-8 premières années de ma carrière chez Desjardins. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, je rêvais, j'aspirais de devenir président? La réponse, c'est non. Est-ce que j'avais de l'ambition? Et la réponse, c'est oui. C'est pour ça que je suis retourné faire un MBA à HEC au tournant des années 2000. Moi, je pense que c'est beaucoup plus de la volonté de vouloir avoir de l'impact, de réussir des choses, de réaliser des projets, d'aider le monde. C'est ça qui m'a fait carburer depuis que je travaille chez Desjardins.
Donc, bienvenue à tous au nouvel épisode du podcast Hypercroissance. Mon nom est Antoine Gagné. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter mon entretien avec nul autre que Guy Cormier, président du mouvement Desjardins. L'entretien d'aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on le travaille, longtemps qu'on veut avoir Monsieur Cormier sur le podcast et finalement, on a été capable d'avoir des discussions avec ses équipes récemment. Ils ont accepté de venir discuter de la belle histoire de Desjardins, mais surtout de la belle histoire d'ascension de M. Cormier à l'intérieur du mouvement à travers les années. Parce que vous allez le voir dans la discussion, M. Cormier, son succès, il ne l'a pas volé. Il est entré dans l'organisation en 1992 comme caissier et tranquillement, il a gravi les échelons pour avoir plusieurs postes de directeur et ultimement devenir président du mouvement en 2016. L'actif de la caisse est passé de 250 à 400 milliards de dollars sous ses gouvernes, c'est pour dire. Également, il y a eu une transformation numérique réussie, beaucoup de changements qui ont été mis en place à l'intérieur du mouvement Desjardins depuis 2016. On en parle à l'intérieur de l'entretien, mais surtout, on parle de la dynamique économique. Il y a plein de gens qui nous posent des questions sur le podcast. Comment ça se déroule dans vos entreprises? Est-ce que les choses vont bien en ce moment? Est-ce que les choses vont moins bien? Est-ce que je devrais m'inquiéter du taux de chômage? Est-ce que je devrais m'inquiéter de l'inflation? Est-ce que l'inflation va retourner à la baisse? Qui de mieux que Guy Cormier pour nous donner des réponses? Et ça, je vous dirai pas les réponses qu'il nous a dit parce que je vais vous inviter à écouter le podcast. Également, je vais vous parler de notre événement en présentiel du 24 mai prochain, panel d'hypercroissance, qui, oui, maintenant, il est sold out, cet événement-là. On ne peut plus acheter de billets, mais je veux le rappeler pour les gens qui nous écoutent et qui ont déjà acheté des billets. On veut vous voir parmi nous. Les panels vont être extraordinaires. Le premier panel de l'événement, c'est un panel qui va parler de croissance par acquisition. Le deuxième panel de l'événement va parler de l'évolution des modèles d'affaires, également de la dynamique économique. Et le troisième panel qu'on a annoncé la semaine dernière, c'est un panel sur l'intelligence artificielle, où est-ce que trois experts dans le domaine vont nous parler comment qu'on peut intégrer l'intelligence artificielle dans nos entreprises. Et les panélistes, eh bien, pour le premier panel, Vincent Gottschall de Legian, Vincent Kelly de Sanivac et Simon Deben de Worklib. Pour le deuxième panel, on a Héloïse Harvey de Epic Machinery, Dominique Gagnon de Connect & Go et Simon Plante du groupe Plante. Et pour le troisième panel, on a Jonathan Léveillé de Open Mind Technologies, David Proulx de Bullseye AI et Olivier Blais de Move AI. Cet événement-là ne pourrait pas avoir lieu sans nos incroyables partenaires. Le premier d'entre eux, j'ai nommé Klaviyo. Klaviyo est une application emailing, un logiciel emailing utilisé par plus, 143 000 entreprises qui utilisent Klaviyo dans le monde. C'est pour dire 143 000. Quand j'ai vu ce chiffre-là, je me suis dit « wow ». Je pensais que simplement, peut-être, il y avait des milliers de clients qui utilisaient l'application et surtout les clients du groupe G7 parce que c'est la seule application mailing qu'on propose à nos différents clients. Mais non, il y a plus de 143 000 entreprises dans le monde qui utilisent cet incroyable logiciel. Et ce qui est exceptionnel avec Klaviyo, c'est ses différentes intégrations. Plus de 350 intégrations qui sont intégrées pour travailler avec des logiciels différents qui nous permet au final d'envoyer le bon message à notre client cible. Si vous êtes une boutique en ligne ou n'importe quel site d'entreprise, Klaviyo, c'est un indispensable. Chez G7, on a plus d'une trentaine de comptes, je pense, au moment où on se parle à utiliser Klaviyo. et c'est la seule plateforme qu'on utilise et qu'on recommande. Donc, si vous êtes intéressé à en savoir plus, allez voir le lien dans les notes de l'épisode pour mieux connaître Klaviyo. Le deuxième partenaire de l'événement Third Bridge, qui est une entreprise spécialisée dans la création d'applications mobiles et dans la création de logiciels. Third Bridge, qui est installé à Montréal et qui sont venus récemment sur le podcast, une très belle organisation de près d'une 60aine de personnes. Donc, si vous cherchez une organisation qui pourrait bâtir une application mobile pour votre organisation ou bâtir un logiciel pour votre organisation, allez voir l'équipe de Third Bridge. Ils ont travaillé avec les plus grands fleurons québécois, comme les Duproprio de ce monde, les Desjardins de ce monde. Et si ces entreprises leur font confiance, je suis convaincu que vous pouvez leur faire confiance également. L'autre partenaire pour cet événement-là, eh bien, c'est le groupe Plante. Le groupe Plante, c'est l'entreprise qui est dirigée par Simon Plante. Simon Plante, j'adore parler de lui sur le podcast parce que c'est simple pour moi. C'est lui qui gère mon argent depuis très longtemps. C'est un conseiller en placement. Il sait ce qu'il fait. Depuis que je travaille avec lui, les rendements que j'ai à la bourse sont assez impressionnants. Je suis excessivement satisfait des résultats que j'ai avec le groupe Plante depuis que je travaille avec lui depuis à peu près 2 ans maintenant. Donc, si vous cherchez un deuxième regard sur vos finances, si vous êtes tanné de pas avoir des meilleurs résultats que ça avec vos investissements à la bourse, pourquoi vous ne demanderiez pas un deuxième regard par l'équipe de Simon? Le deuxième regard est 100% gratuit. Simon va pouvoir vous donner une bonne vision de ce qui va bien, ce qui va moins bien avec votre portefeuille et par la suite, vous pourrez prendre une décision. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les services que Simon Plante et le groupe Plante offrent, encore une fois, il y a un lien dans les notes de l'épisode. Dernière chose avant de lancer le podcast avec Monsieur Cormier aujourd'hui, on vous invite à vous abonner si vous écoutez le podcast sur YouTube ou encore sur Spotify ou Apple Podcasts. C'est la seule chose que vous pouvez vraiment faire pour nous aider ou encore peut-être même nous donner un review en ligne. Ça va nous faire énormément plaisir. Sur ce, je vous souhaite un excellent épisode. Guy Cormier, vous êtes le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, le premier groupe financier coopératif en Amérique du Nord. Pour donner un petit peu de contexte aux gens qui nous écoutent, le Mouvement Desjardins, en chiffres, c'est 7,7 millions de membres et clients, plus de 54 000 employés et 661 points de service au Québec et en Ontario. Vous êtes d'ailleurs personnellement, M. Cormier, reconnu comme un acteur important du paysage québécois en ayant été nommé récemment dans le top 20 des personnes les plus influentes au Québec, suivant un sondage Léger Marketing. Guy Cormier, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Merci beaucoup de l'invitation. Très content d'être avec vous.
M. Cormier, le Mouvement Desjardins n'a pas vraiment besoin de présentation en 2024 avec sa présence qui est si forte, si bien établie au Québec, mais tout de même, si on avait à expliquer à notre audience les éléments qui différencient le mouvement des autres institutions. Qu'est-ce qui vous viendra en tête rapidement?
Ben, écoutez, 4 choses. La première, c'est notre nature coopérative. Essentiellement, notre finalité, c'est de contribuer au mieux-être économique, social de nos membres, de nos clients, de nos différentes communautés. On fait ça depuis 124 ans. Notre mission, elle est claire, d'accompagner nos membres et clients dans leur autonomie financière. Donc, oui, on a cette recherche de générer des excédents, mais des excédents qui vont nous aider à être meilleurs pour nos membres et nos clients. Et ça, c'est au cœur même de notre nature coopérative, de notre projet depuis la fondation par Alphonse et Doreymen Desjardins. Le deuxième élément, c'est clairement cette participation active que les membres peuvent avoir dans leur coopérative, dans leur institution financière. C'est-à-dire, à chaque année, il y a des assemblées annuelles dans plus de 200 caisses, dans l'ensemble de nos caisses au Québec, en Ontario. Des membres peuvent se présenter, peuvent exprimer leur point de vue, exprimer leur attente, peuvent élire les membres sur le conseil d'administration des caisses. Et ces membres-là de caisses peuvent par la suite être élus au conseil d'administration du mouvement, participent à des congrès, participent à des assemblées annuelles du Mouvement Desjardins. Donc, cette vie démocratique-là, elle est présente et la voix des membres, elle peut s'exprimer. Donc, pour moi, ça, c'est une deuxième très grande différence. La troisième, c'est notre proximité. Je veux dire, notre proximité dans les milieux, notre présence incomparable, non seulement en termes de nombre de points de service de guichets, mais plus de 500 millions par année qu'on verse dans les différents projets. Moi, j'aime souvent dire, faites le tour des arénas, des écoles, des clubs sportifs, de la danse, de l'art. Il y a du Desjardins partout au Québec. Il n'y a pas d'autres entreprises qui est présente comme ça. Puis finalement, et ça, parfois, les gens l'oublient, ils voient souvent Desjardins à travers la lunette des caisses Desjardins, donc le volet plus bancaire de nos activités. Mais il y a plus de 50% des activités de Desjardins, et ça, ça nous différencie de plusieurs, qui sont aussi nos activités d'assurance. Mmh. Donc, on est autant un assureur de dommages, auto, habitation, assurance vie, assurance collective, qu'une institution financière qui fait des prêts aux particuliers, aux entreprises. Et ça, C'est quand même un peu unique à Desjardins.
Et bon, M. Cormier, j'aimerais peut-être, avant qu'on parle de Desjardins, parler un petit peu de votre parcours personnel, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais vous êtes dans le regroupement Desjardins depuis un bon bout de temps déjà. Donc, vous avez étudié à HEC Montréal, vous avez obtenu un baccalauréat en administration des affaires, une maîtrise également dans le même domaine. Et là, par la suite, c'est en 1992 que vous intégrez le mouvement. Vous commencez dans une caisse, par la suite directeur général des différentes caisses de 2002 à 2009. En 2009, vous avez intégré la fédération à titre de vice-président finance pour le réseau des caisses, pour par la suite devenir le premier vice-président réseau des caisses et services aux particuliers. Et depuis votre élection à la présidence en 2016, c'est là par la suite que vous avez pris bien entendu la direction du groupe, mais l'actif est passé de 250 milliards de dollars en 2016 à plus de 400 milliards de dollars aujourd'hui, croissance assez phénoménale de 60% 6 ans seulement. Moi, je serais curieux juste de revenir un petit peu en arrière parce que là, on a expliqué un petit peu le portrait global. Est-ce que dès le départ, quand vous êtes arrivé dans le mouvement Desjardins, vous avez vu dans votre futur l'envie de vouloir grimper les échelons et par la suite, peut-être on pourra parler de ces différents rôles?
Ah, écoutez, absolument pas, là. J'ai commencé chez Desjardins comme caissier, là. J'ai commencé bien comme sûr. Caissier en 1992 dans un programme qui m'a amené par la suite à devenir directeur de compte entreprise. J'ai fait du financement aux entreprises pendant les 7-8 premières années de ma carrière chez Desjardins. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, je rêvais, j'aspirais de devenir président? La réponse, c'est non. Est-ce que j'avais de l'ambition? Est-ce que j'avais le goût de progresser? La réponse, c'est oui. C'est pour ça que je suis retourné faire un MBA à HEC au tournant des années 2000. Donc, j'avais le goût de progresser. Je souhaitais devenir directeur général de caisse parce que pour moi, c'était une façon d'exprimer de l'entrepreneurship, de pouvoir gérer une caisse à l'intérieur d'un grand mouvement, mais d'être près des entrepreneurs, être près des communautés, aider du vrai monde à réaliser leurs projets. C'est ça que j'aimais faire, gérer des ressources. Alors, c'était ça que je souhaitais. J'ai adoré cette job-là d'être directeur général de caisse. Et c'est vraiment au tournant des années 2009-2010 qu'on m'a offert la possibilité de venir à la fédération. Et après ça, ça s'est bousculé dans l'équipe de direction. Alors, moi, je pense que c'est beaucoup plus de l'ambition, de la volonté de vouloir avoir de l'impact, de réussir des choses, de réaliser des projets, d'aider le monde. C'est ça qui m'a fait carburer depuis que je travaille chez Desjardins.
Bien sûr. Exceptionnel. Et bon, peut-être j'aimerais revenir en l'actif passe de 250 à 400 milliards de dollars. Est-ce que c'était un petit peu le mandat que vous aviez donné aux administrateurs, que vous aviez dit un petit peu aux gens quand vous aviez été élu, de se dire, nous, on voit un potentiel de croissance en actif. Voici le plan, voici la stratégie qu'on met en place pour le grossir de X, Y, Z % dans les 5-6 prochaines années?
Non, c'était pas vraiment ça. C'était, on savait que ça pourrait être une conséquence. Mais ma vraie ambition, quand je suis arrivé à la présidence du mouvement Desjardins en 2016, c'était vraiment d'aligner Desjardins sur sa raison d'être, ses membres, ses clients. Au sortir de la crise financière de 2008-2009, on a eu des exigences importantes de capitalisation, de productivité, de liquidité, les régulateurs, les gouvernements. C'est tout à fait normal. On a mis, dans le fond, des encadrements importants envers les groupes financiers comme Desjardins. Et moi, j'étais membre de cette équipe de direction-là. Là. Alors, j'assume totalement cette période-là. Mais en cours de route, peut-être parfois, il nous est arrivé peut-être d'un peu lever la tête puis de dire, hey, les membres et les clients, faut pas les oublier là-dedans. Et c'est ce que je souhaitais en 2016. Donc, de réaligner, d'aligner Desjardins sur sa raison d'être, ses membres, ses clients, bâtir une organisation qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus humaine, beaucoup plus moderne, beaucoup plus performante. Et le pari que j'ai pris, c'est que si on fait bien ça, bien, il y a plus de membres et de clients qui vont vouloir faire affaire avec nous. Et il y a plus de croissance qui va venir. Mais ce sera la conséquence de bien servir nos membres et nos clients. Et ce qu'on constate, effectivement, depuis 2016, ben c'est une vélocité beaucoup plus grande chez Desjardins par rapport à l'attraction de nouveaux membres et de nouvelles clientèles. On augmente beaucoup, beaucoup dans tous nos segments, dans toutes nos divisions, à travers le Québec, à travers le Canada. Et aussi une volonté d'innover. Je vous donne un exemple quand on a fait l'acquisition de Duproprio en 2019. C'était pour contribuer à bâtir un écosystème qui va venir accompagner des membres et des clients dans leur projet habitation. Pas juste l'hypothèque, pas juste l'assurance habitation, mais les autres facettes d'acquérir ou de gérer une propriété. Est-ce qu'on peut les aider? Donc, quand on a fait l'acquisition tout récemment de compagnie d'assurance de l'île du Prince-Édouard, c'est pour regarder comment on pourrait pas être meilleur dans l'accompagnement de nos entrepreneurs dans l'assurance commercial, l'assurance aux entreprises. Donc, le besoin initial est toujours comment on peut aider nos membres et nos clients. Et par la suite, ça peut générer de la croissance, ce qui était le cas.
Intéressant. Bon, je continuerai peut-être un petit peu sur votre mandat et par la suite, on ira sur d'autres points. Vous êtes en charge depuis 2016 maintenant. Votre mandat a d'ailleurs été prolongé jusqu'en 2026 au minimum. Je serais curieux de vous entendre ici, si on avait à regarder tout ce qui s'est déroulé depuis 2016, tout ce que vous avez fait, avec un petit peu de recul, qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Qu'est-ce que vous avez été le plus heureux de mettre en place avec le groupe?
Le réalignement de Desjardins sur ses membres et ses clients, que je viens de vous dire. Honnêtement, on regarde tous nos indicateurs. L'appréciation des membres et des clients est en forte hausse dans toutes nos activités. La croissance, vous venez d'en parler, du membership, des volumes d'affaires est à la hausse. Les parts de marché sont à la hausse. Donc, la coopérative financière qu'est le mouvement Desjardins, là, performe et solide. Et ça, pour moi, c'est extrêmement rassurant parce que quand vous devenez président du mouvement Desjardins, ben, vous êtes là pour une courte période de temps, là. Sur 124 ans d'histoire, là, moi, je vais être là 8 à 10 ans, là. C'est pas ma compagnie à moi, Desjardins. Je l'ai pris dans un état un très bon état, puis j'essaie de la laisser à une prochaine personne dans un bon état aussi, voire même meilleur. Alors, c'est vraiment ça. C'est une course à relais, le présider Desjardins. Puis là, j'ai eu le bâton pendant un petit bout de temps, puis j'essaie de faire de mon mieux pour l'emmener plus loin. Mais cette organisation est beaucoup plus grande que moi. Mais vraiment d'avoir recentré Desjardins sur ses membres et clients, incluant notre virage technologique, ça, pour moi, c'est une grande source de fierté.
Et d'ailleurs, on va en parler un petit peu plus tard, mais j'aimerais revenir au point de la gouvernance parce qu'effectivement, on a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent sur le podcast d'entreprises de 30, 50, 100 employés. La gouvernance est simple. Un président, un vice-président qui s'intègre. Mais quand ça devient une organisation aussi grande que Desjardins, ça va augmenter en termes de sophistication et niveau de complexité. Je lisais d'ailleurs récemment, comme je l'ai mentionné, que votre poste est prolongé jusqu'en 2026 au minimum. Il y a également un changement qui s'installe. Le président du conseil d'administration risque d'être, ou plutôt devra être différent du président du mouvement. Je serais peut-être curieux si on pouvait situer un petit peu nos auditeurs à quoi ressemble un processus de gouvernance pour élire un nouveau président du chef du mouvement Desjardins et par la suite un président du conseil d'administration. Comment ça se met en place, tout ça?
Ben, écoutez, depuis à peu près plus de 30 ans, élire le président du mouvement Desjardins, comme ça a été le cas pour moi, c'était fait par les caisses Desjardins dans un processus électoral où pendant quelques semaines, les différentes personnes qui souhaitaient accéder à la présidence présentaient leur candidature dans un groupe de caisses, on peut imaginer, selon différentes tribunes là, dans différentes régions. Et à un moment donné, les caisses, un représentant par caisse, là, je fais ça un peu simplet, là, mais un représentant par caisse, ben, votait et était élu le président du mouvement Desjardins ou la présidente, dans le cas de M. Damour, dans le cas de Mme Leroux, dans mon cas. Ça, on a pris la décision de faire évoluer ça. À l'Assemblée générale annuelle de mars 2023, l'année dernière, les délégués, considérant l'envergure qu'est maintenant le mouvement Desjardins, les besoins de stabilité à la tête du mouvement Desjardins, les exigences réglementaires et la complexité d'être autant le président du conseil d'administration et le président chef de la direction, ce qui était le cas là, pour moi, M. Damour et Mme Leroux, les délégués ont dit qu'il serait peut-être temps maintenant de séparer ces deux fonctions-là. Donc, à partir de mars cette année, j'ai terminé mes deux mandats de 4 ans et je suis devenu président et chef de la direction pour, au maximum, pas au minimum, au maximum, jusqu'en mars 2026. Et ce qui va se passer, c'est que le conseil d'administration du mouvement Desjardins va, en mai 2024, sélectionner, nommer, trouver son président de conseil d'administration. À l'heure où les gens vont nous écouter, là, le nouveau président du conseil d'administration de Desjardins va probablement avoir déjà été choisi. Et c'est cette personne-là qui va dorénavant gérer le conseil d'administration de Desjardins. Moi, je vais m'occuper d'agir comme président et chef de la direction du mouvement Desjardins pour au maximum une période de 2 ans. Donc, je vais prolonger ça 8 ans plus 2 ans. Et le prochain processus de sélection, pour répondre à votre question, va être fait par le conseil d'administration. Donc, le conseil d'administration va établir des grands paramètres d'une prochaine présidence, va définir un peu le portrait type de cette personne-là qui pourrait présider le mouvement Desjardins, va se constituer un comité de sélection, va y avoir un processus d'entrevue qui, on peut s'imaginer, là, est costaud quand même, là. Et il y a une prochaine personne qui va être sélectionnée pour me remplacer au plus tard, d'ici mars 2026, dans le rôle de président et chef de la direction.
Très clair. Et bon, peut-être, juste pour terminer un petit peu sur ce mandat-là, parce que par la suite, on analysera certaines dynamiques économiques actuelles qui, à mon avis, notre audience veut savoir, surtout avec tout ce que vous êtes capable de voir au quotidien. Mais c'est quoi les objectifs que vous aimeriez atteindre d'ici 2026? Est-ce qu'il y a des choses qui restent à atteindre, des objectifs très clairs?
Ben, écoutez, je dirais trois choses. La première, c'est de bien accompagner le conseil d'administration du Mouvement Desjardins. J'ai eu le privilège de présider le conseil pendant 8 ans. Donc, de bien accompagner cette nouvelle personne-là qui va présider le conseil, de s'assurer d'une bonne stabilité, du maintien de nos alignements stratégiques, d'une bonne gouvernance du mouvement, des meilleures pratiques. Donc, dans mon rôle de transition, d'être capable d'accompagner le conseil d'administration dans cette façon de faire-là. Le deuxième, c'est de présider comme chef de la direction le plan stratégique du Mouvement Desjardins. C'est-à-dire de poursuivre notre virage membre et client, simple, humain, moderne et performant, de poursuivre l'accompagnement de nos membres et clients, notamment dans la période actuelle qui est turbulente, qui amène de l'incertitude, et d'être l'institution financière, le groupe financier où les gens vont nous sentir proches, engagés et qui les accompagnent adéquatement. Puis le troisième, ça va être de poursuivre notre virage technologique, notre virage numérique pour rendre les choses encore plus simples pour nos membres et clients de faire affaire avec nous au moment où ils le veulent, à l'endroit où ils le veulent et à l'heure où ils le veulent. Nos membres nous demandent de pouvoir interagir avec nous beaucoup plus simplement. Alors, je vais continuer sur l'élan qu'on a entrepris, mais je vais essayer d'accélérer les choses par rapport à ça.
Fantastique. Et bon, j'aimerais parler avec vous, Monsieur Cormier, un petit peu de la dynamique économique actuelle. On reçoit beaucoup de questions sur le podcast, des gens qui nous disent « qu'est-ce que vous pensez de la dynamique au niveau des taux d'intérêt, les taux de chômage, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? » Je pense qu'il n'y a rien de mieux que vous poser cette question-là, Monsieur Cormier. Bon, Desjardins, au moment où on se parle, accompagne plus de 415 000 entreprises. Ouais. Vous avez donc une très belle vue sur la situation entrepreneuriale du Québec. On a vécu un moment, on pourrait dire, post-COVID assez tumultueux, une inflation à la hausse qui, par la suite, a chamboulé un petit peu la dynamique économique. Le taux de chômage, d'ailleurs, est passé à 6,1% au pays comparativement au mois dernier. Beaucoup de chiffres sont amenés à notre attention, beaucoup de spéculations. Au final, vos membres, comment ils vivent la situation? C'est quoi la dynamique en ce moment au niveau des entreprises au Québec que vous sentez?
Ouais, je vous dirais que 5 éléments essentiellement que j'ai le goût de porter à votre attention. Le premier, c'est que c'est difficile actuellement. C'est difficile pour beaucoup d'entreprises. Vous avez raison. Sortir de la pandémie, après ça, hausse de l'inflation, hausse des taux d'intérêt. Certaines entreprises, remboursement des prêts d'urgence du gouvernement fédéral, provincial. Donc, beaucoup. Puis là, je rajoute la pénurie de main-d'œuvre. Donc, vraiment, là, on constate qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont encore fortement sous pression. Ça, c'est clair. Et là, je mets même pas les enjeux parfois de motivation, santé mentale de nos entrepreneurs qui sont vraiment depuis 3-4 ans fortement sous pression. Ça, c'est ce que je constate dans toutes les entreprises, presque tout secteur d'activité confondu. Le deuxième élément, c'est l'incertitude. Il y a encore beaucoup d'incertitudes. Puis quand on est en affaires, on essaie de mitiguer l'incertitude le plus possible pour prendre les meilleures décisions, diminuer nos risques. Là, il y a de l'incertitude. De l'incertitude géopolitique, de l'incertitude macroéconomique, de l'incertitude sociale, de l'incertitude environnementale, de l'incertitude réglementaire. Donc, on vit dans un environnement où les entrepreneurs, il y a plus d'instabilité et d'incertitude. Donc, ça vient aussi augmenter le niveau de pression ou le besoin des entrepreneurs d'être encore mieux accompagnés qu'avant, parce qu'il y a beaucoup de sources d'incertitude. Le troisième élément, c'est de se rappeler que c'est variable d'une industrie à l'autre. Ce que je viens de vous dire, là, c'est d'aller niveau variable. Si je parle à des entreprises qui sont dans le domaine des changements climatiques, dans le solaire, dans l'éolien, eux, honnêtement, là, ils regardent le futur puis c'est assez positif. Quand je regarde d'autres secteurs d'activité, exemple dans le manufacturier, oups, ils sont un peu plus sous pression. Donc, il ne faut pas penser que tous les secteurs sont au même niveau de pression. Il y a une trame de fond, mais il y a des secteurs qui sont vraiment, qui regardent le futur, puis, exemple, qui exportent aux États-Unis. Aux États-Unis, l'économie n'a pas tant ralenti, donc leur carnet de commandes est bon. Donc, il y a quand même des industries qui tirent bien leur épingle du jeu. Puis moi, je termine en vous disant à quel point, actuellement, j'ai encore plus d'estime et de respect pour nos entrepreneurs, parce que ils vivent une période hyper difficile. Ils font tout pour garder leur entreprise à flot. Puis nous, ben, notre mot d'ordre à l'interne, c'est flexibilité. C'est comment on peut bien les accompagner, comment on peut bien les soutenir, comment on peut faire preuve de créativité puis de pas mettre de la pression additionnelle. Parfois, c'est pas facile, là, mais essayer de les aider. Mais vraiment, moi, le mot-clé, c'est un niveau d'incertitude que j'ai rarement vu depuis au moins les 15 dernières années.
Donc, faut pas se voiler la face. C'est plus difficile en ce moment, là.
Ah, c'est plus difficile. C'est multifacette plus difficile. Et ouais. Moi, le message que je passe à beaucoup d'entrepreneurs, c'est que plus que jamais, parlez à votre institution financière, puis parlez pas seulement des choses qui vont bien. Puis des fois, on veut pas parler de ce qui va mal parce qu'on se dit, ah, ben là, ils vont fermer ma marge de crédit ou ils vont mettre... Non, mais si les gens, ils nous partagent pas les défis qu'ils ont ou qu'elles ont, ben c'est plus difficile pour nous d'arriver après à la fin, là, puis d'être pris à la dernière minute. Alors que si on voit venir les défis, parfois c'est de la main-d'œuvre, parfois c'est de la chaîne d'approvisionnement, parfois c'est la croissance. On est capable de travailler en partenariat avec l'entreprise. On en aide 415 000 au Québec. Là.
Ben oui.
Donc, oui, c'est plus difficile, mais plus que jamais, les entrepreneurs doivent aller chercher le soutien et le support. Parce que oui, on peut être un généraliste, un grand chef d'orchestre, mais on a besoin de spécialistes pour nous aider dans cette période-ci parce que ça va un petit peu plus vite sur la route. Là.
Bien sûr. Et si on bondit là-dessus et qu'on parle peut-être un petit peu des taux d'intérêt, le 10 avril dernier, la Banque du Canada a annoncé maintenir son taux directeur à 5 %. La Banque centrale argumente que les indicateurs portent à croire que les choses se stabilisent au niveau de l'inflation, mais on reste prudent. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, on s'est fait poser beaucoup de questions sur le podcast, de ce qu'on pensait. Vous, de votre côté, vous dites quoi à vos membres par rapport à cette dynamique de taux d'intérêt qui reste quand même assez élevé au moment où on se parle, comparativement à ce qu'on a pu voir dans les années COVID de 2021, où est-ce que les taux étaient littéralement 0 %?
Ouais, ben ce qu'on dit là, clairement et sincèrement, c'est qu'il faut oublier les taux d'intérêt qu'on avait de 2010 à 2020. Puis il faut oublier les taux d'intérêt d'avant la pandémie. C'est peut-être cette période-là qui était exceptionnelle. C'est pas celle actuellement. C'est peut-être cette période-là qui était exceptionnelle. Puis quand vous remontez à 1940-1950 et vous regardez les 75-80 dernières années, on constate que de 2000 à 2020, ça aurait été 20 années où les taux d'intérêt étaient exceptionnellement bas, alors qu'auparavant, ben, les taux étaient plus dans des eaux entre certainement au-dessus de 5 %. Alors actuellement, la Banque du Canada, elle est déterminée à contrer l'inflation. Et ce qu'on peut constater, c'est que le remède fonctionne. Il y a des dommages collatéraux, mais l'inflation est passée de 8-9 % entre 2 et 3 %. Et là, je sens, moi, dans le discours de la Banque du Canada, puis nos économistes chez Desjardins le voient aussi, on anticipe une baisse de taux d'intérêt. Là, est-ce que ce sera en juin 2024, en septembre 2024, en octobre? Là, je vais laisser tous les spécialistes qui ont le goût de débattre de ça, Mais moi, ce que je dis à nos membres, c'est on pense que dans le deuxième semestre, on devrait voir une baisse de taux d'intérêt. Ça, et là, par contre, est-ce que ça va revenir à des taux comme avant la pandémie, puis en dedans de... La baisse de taux d'intérêt va être beaucoup plus progressive que la hausse rapide qu'on a eue post-pandémie. Pourquoi? Ben parce qu'on va vouloir bien monitorer l'impact sur l'économie, l'impact sur l'inflation, l'impact sur la création d'emplois. Alors, il faut dorénavant, si on est un entrepreneur, se mettre dans une perspective que nos modèles économiques, nos modèles financiers doivent être dorénavant calculés avec des taux d'intérêt qui vont être beaucoup plus dans les horizons de 4, 5, 6, 7, 8 % et pas nécessairement 1, 2 ou 3 %. Moi, c'est ce message-là qu'on passe à nos entrepreneurs.
Ça change la donne. Ça change la donne totalement. Et qu'est-ce que vous voyez des organisations peut-être qui se démarquent un peu plus? Est-ce qu'il y a un dénominateur commun que vous voyez? Une adoption plus rapide à des transformations numériques? Est-ce qu'il y a des thèmes que vous voyez avec les entreprises qui, malgré cette dynamique plus difficile, soyons honnêtes, on arrive à continuer à faire de la croissance, on arrive à se démarquer?
Ben, écoutez, un des thèmes que je vois pour les entreprises qui réussissent à tirer leur épingle du jeu, c'est la capacité de savoir s'entourer. Je veux dire, ces entrepreneurs-là savent qu'il y a des défis importants, ceux qu'on a parlé précédemment, parfois c'est financier, parfois c'est géopolitique, parfois c'est la chaîne d'approvisionnement. Donc, ils sont continuellement en train de se dire, j'ai besoin de qui pour m'aider à passer à travers ce défi-là? Et ils essaient d'aller chercher de l'aide activement, là. Que ce soit auprès d'autres entreprises, de d'autres partenaires, et ils osent des choses, là. Alors, moi, je vois beaucoup ça. Des entrepreneurs qui sont beaucoup plus à l'aise d'exprimer leurs enjeux et de dire qu'ils ont besoin d'aide et qui vont voir des entreprises dans d'autres secteurs d'activité complètement, là. Le commerce de détail qui va voir des entreprises dans le numérique, des entreprises qui étaient B2B qui vont quand même voir des entreprises dans le B2C parce que justement, comment ils servent bien leurs clients. Donc, les gens, ils sortent un peu de leur sentier battu pour essayer d'apprendre de d'autres secteurs d'activité. Ça, c'est vraiment une clé. Deuxièmement, des entrepreneurs qui sont toujours en mode adaptation. Ils sont pas en mode, ben c'est parce qu'on a fait ça depuis 10 ans, il faut rester comme ça. Non, j'accepte de revoir le statu quo régulièrement. Puis peut-être quelque chose qu'on a mis de l'avant il y a 2-3 ans, mais il faut réévaluer beaucoup plus rapidement qu'on pensait. Alors ça, c'est des trames de fond. Aller chercher de l'aide et cette capacité d'adaptation-là est très, très importante. Puis le dernier élément que je vois, c'est des entrepreneurs qui prennent vraiment le temps, malgré parfois la tempête qu'il y a ou les nombreux défis, de rester branchés sur leurs membres et leurs clients. Et nous, c'est ce qu'on fait chez Desjardins, là, mais tu sais, de pas perdre qu'on est là pour des membres et des clients, ou on est là, dans le cas de ça, pour des clients, là. Alors, on les écoute, on s'adapte, on s'assure, parce que les clients aujourd'hui peuvent beaucoup plus rapidement changer de fournisseur.
Bien sûr.
Ils ont des offres de services qui sont très compétitives. Alors, que ce soit chez nous, que ce soit dans tout secteur d'activité, rester branché sur ses clients, c'est hyper important.
On fait une courte pause sur l'épisode en cours pour vous parler de notre événement du 24 mai prochain. Je le sais, je vous en parle beaucoup, mais c'est parce que je suis donc excité. On va avoir 3 panels d'hypercroissance avec des gens extraordinaires. Le premier panel de notre événement du 24 mai qui va se dérouler à partir de 18h à l'Hôtel Alt de Montréal. Le premier panel sera avec Simon Desbennes de Workly, Vincent Kelly de Sanivac et Vincent Cochard de Logis. On va parler de croissance par acquisition. Le deuxième panel qui va s'en suivre, ça va être un panel avec Dominique Gagnon de Connect & Go, Héloïse Harvey de Epic Machinerie et Simon Plante du groupe Plante. On va parler ici d'évolution de modèle d'affaires et de la dynamique économique, comme ce qu'on parle un petit peu avec M. Cormier aujourd'hui dans le podcast. Et le troisième panel, on va parler de l'intelligence artificielle en entreprise, comment qu'on peut intégrer le tout avec Jonathan Léveillé de Open Mind Technologies, Olivier Blais de Move AI et David Proulx de Bullseye AI. Et cet événement-là ne pourrait pas avoir lieu sans l'apport de nos incroyables partenaires. Et le premier d'entre eux, j'aimerais parler de Hello Darwin. Hello Darwin devient littéralement votre département de subvention externe. Donc, Hello Darwin offre la possibilité aux différents clients qui travaillent avec eux, plus de 1600 programmes de subventions canadiennes. Ils sont capables de vous démontrer et de vous offrir des subventions qui peuvent aller de la croissance de votre organisation aux ressources humaines, à l'innovation, aux technologies, au virage vert. Bref, il y a énormément de thèmes que Hello Darwin est capable de couvrir. Également, ce qui est totalement exceptionnel avec Hello Darwin, c'est qu'ils sont prêts à garantir leurs frais. Donc, si vous travaillez avec eux, si vous remplissez un formulaire sur leur site Internet pour avoir accès à des subventions. Et d'ailleurs, je tiens à vous le dire, habituellement, un client qui va travailler avec Hello Darwin va recevoir jusqu'à 250 000 $ en subvention. Eh bien, si vous travaillez avec eux et que automatiquement, vous n'êtes pas capable d'avoir au minimum 2 fois les honoraires d'Hello Darwin en montant de subvention au final en travaillant avec eux, ils vont vous rembourser. C'est pour vous montrer à quel point ils sont confiants de leur approche, confiants de leur service. Et d'ailleurs, si vous êtes un auditeur du podcast Hypercroissance, que j'espère aujourd'hui, vous allez obtenir en plus un 10% additionnel sur leurs différents forfaits de subvention si vous allez au go.hellodarwin.com/hypercroissance. Donc, je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance, HyperCroissance. Allez, jetez un petit coup d'œil à ce que Hello Darwin est capable de faire pour vous. Allez voir les subventions qu'ils peuvent vous offrir et je suis convaincu que vous allez être très heureux. Et le dernier partenaire de l'événement, c'est Acombago. Et Acombago, c'est extraordinaire parce que c'est une plateforme qui aide à votre comptabilité. C'est une plateforme qui est utilisée par plus de 40 000 PME au Québec. Et l'autre fois, ils viennent me voir et disent, Antoine, on va faire les choses encore plus grandes cette fois-ci. On va offrir 3 mois gratuits de nos services aux auditeurs du podcast via un concours. Via un concours, donc, vous courez la chance littéralement de gagner 3 mois gratuits au service de Acombago si vous rendez au site internet suivant acomba.com/hypercroissance. Donc, je le répète, acomba.com/hypercroissance. Allez remplir les informations sur le concours. Je suis convaincu que si vous participez et que vous gagnez, vous allez être excessivement heureux d'utiliser leur logiciel. 40 000 PME au Québec qui utilisent le logiciel d'Acombago pour gérer leur comptabilité, gérer tout ce qui se déroule au niveau des finances dans leur entreprise. Allez jeter un petit coup d'œil, participez au concours. Peut-être vous allez être un des heureux gagnants et vous allez avoir un nouveau logiciel de comptabilité plus moderne, plus intéressant, parce que le gros avantage d'Acombago, c'est qu'ils ont un service de gestion des clients, un service de support 100% français. Donc, c'est fait pour la clientèle québécoise, c'est fait pour vous. De retour à l'épisode en cours. Vous avez parlé de transformation un petit peu, d'adaptation, M. Cormier. J'aimerais peut-être aborder ça avec le mouvement Desjardins, parce qu'il y a quand même une dynamique intéressante qui s'est déroulée de votre côté. Je parle ici de la transformation numérique, donc bon, je pense qu'on peut le dire pour les gens qui nous écoutent et qui utilisent les services de Desjardins, vous êtes un joueur financier dans le domaine numérique. Sophistiqué, même très sophistiqué, je serais prêt à le dire. Ce qui est paradoxal dans tout ça, c'est que cette transformation numérique-là s'est faite pendant que, d'un autre côté, vous deviez faire décroître une ligne de service. Et je parle ici de vos différents points de vente. Vous dites d'ailleurs en entrevue à Radio-Canada que vous prévoyez fermer jusqu'à 30 % vos points de service. J'ai pas nécessairement envie d'aborder la question du pourquoi. Je pense que tout le monde va être capable de comprendre la raison derrière ça aujourd'hui, mais j'aimerais aborder pour les gens qui nous écoutent, pour les entrepreneurs, comment qu'on est capable de jongler dans une dynamique de transformation numérique, mais d'un autre côté, de laisser aller une ancienne ligne de service qui était très importante pour nous dans le passé. Comment qu'on arrive en tant qu'organisation à transformer notre modèle tout en réduisant considérablement ce qui nous avait fait grandir pendant autant d'années?
Ouais, ben écoutez, c'est une très bonne question, puis j'aime beaucoup l'angle de votre question. Un, c'est d'accepter que ça risque d'être un très grand défi. Et moi, là, je vous le dis, comme président de Desjardins depuis 2016, je pense que c'est l'un de mes plus grands défis, de trouver le bon équilibre entre faire ce virage technologique, numérique-là, parce qu'une forte proportion des membres de la coopérative me le demandent, mais en même temps, respecter, me rappeler et savoir que j'ai des membres qui, eux, veulent aussi avoir des offres de services qui sont physiques dans des réseaux comme dans notre réseau des caisses ou dans nos guichets automatiques.
Donc, c'est ce qui nous distinguait quand même, là.
Ben, c'est ce qui nous distinguait, mais ce qui nous distinguait, là, c'est pas les points de service physiques puis les guichets automatiques. Ce qui nous distinguait, là, quand je prends un pas de recul, c'est la proximité. Les gens aimaient cette proximité-là qui s'incarnait par la caisse. Puis au tournant des années 80, qui s'est incarné par l'arrivée de guichets automatiques. Il n'y avait pas de guichets automatiques avant 1980, mais la proximité s'est définie à travers les guichets automatiques. En cours de route, oups, la proximité s'est définie par le terminal point de vente chez le marchand. Oh, c'est encore plus simple, j'ai même pas besoin d'aller à la caisse. Je rentre ma carte directement, puis je suis à l'épicerie, puis je paye. Oups, la proximité. Et qui s'est définie par j'utilise mon téléphone maintenant, puis je suis capable de faire mes transactions. Mais la trame de fond, depuis 124 ans chez Desjardins, et là, ça commence sur le perron de l'église de la caisse, c'est la proximité. Desjardins, c'est une organisation qui est près de nous, physiquement et aujourd'hui technologiquement. Alors, le défi, c'est de, pour les entrepreneurs, c'est pas seulement de voir le moyen ou le véhicule qui sert pour notre offre de service, mais de plus prendre du recul, de dire qu'est-ce qui me distingue, puis pourquoi les gens font affaire avec nous. Il faut en faire avec nous parce qu'on est proche et on est accessible. Alors, par contre, le véhicule, lui, peut évoluer. Et c'est ce qu'on vit chez Desjardins. C'est-à-dire, on a encore plus de 600 caisses, 600 points de service, 1500 guichets automatiques. Il n'y a pas une autre institution financière qui a autant que ça au Québec pour nous, là. Mais je suis très conscient que quand on fait cette transformation-là, bien, il y a une certaine frange ou un certain groupe de nos membres qui sont pas totalement satisfaits parce que eux, ils sont moins à l'aise avec la technologie, puis je comprends ça. Mais en même temps, quand j'ai une forte proportion de mes membres qui, eux, veulent que j'investisse massivement en technologie, ben c'est ce choix-là que je dois faire. Donc, concrètement, il faut se rappeler que les changements bousculent, l'accepter, l'assumer. Mais après ça, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, pour votre question de dire comment on laisse une ligne de produit, peut-être qu'on va vers l'autre, c'est l'accompagnement. On passe beaucoup de temps accompagner nos membres et nos clients. On prend le temps d'expliquer les choses. Ça fait 8 ans comme président que sur toutes les tribunes, je me fais toujours poser cette question-là. Pourquoi vous fermez des points de service? Pourquoi vous changez? On l'explique, on répète, on fait face à la musique. Dans nos caisses, les gens accompagnent les membres pour aller au guichet, pour utiliser les technologies. On les rassure, on est présent dans les résidences pour personnes âgées. On a des services d'accompagnement à domicile. On a même créé 2 navettes comme des autobus, là, 2 navettes mobiles qui se promènent parfois pour accompagner les gens dans des périodes de transformation. Donc, c'est vraiment de pas sous-estimer la gestion de changement entre le point A et le point B, puis d'y aller graduellement. L'autre fois, je parlais avec des gens, ils me disaient, Monsieur Cormier, pourquoi vous avez encore 600 points de service puis 1500 guichets? Vous devriez faire ça bien plus rapidement. Je disais non, parce que justement, je suis dans une transition qu'on veut le faire de façon respectueuse envers nos membres et clients, même si certains trouvent qu'on va trop rapidement. Donc, c'est de trouver ce bon équilibre-là, mais c'est un grand défi.
C'est C'est un grand défi. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter aujourd'hui qui, bien entendu, peut-être pas dans vos extrêmes, où est-ce qu'on a autant à changer, mais qui vont devoir vivre ces différentes transformations-là dans les prochaines années. Et peut-être les leçons qu'on en tire, les apprentissages pour quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qui a à faire ce changement-là, si on avait à résumer ça en quelques mots, quelques phrases, qu'est-ce qui vous viendrait en tête?
Écouter les membres et clients et adapter son plan de match. On a une façon de penser au départ, mais finalement, quand on le déploie ou on le met de l'avant, ben on s'adapte. Nous, là, depuis 8-10 ans, là, notre évolution de nos points de service, on s'est adapté régulièrement. Ah, regardons, il faudrait être plus présent dans la résidence personnes âgées. OK, on va y aller. Donc, l'écoute des membres et des clients. Deuxièmement, expliquer 100 fois sur le métier, répéter pourquoi on fait ce changement-là, c'est quoi le sens, c'est où notre destination. Puis troisièmement, ben être capable d'accompagner encore mieux les personnes qui ont certains besoins. Mais à la fin de la journée, de se dire que moi, je suis autant... J'ai un travail de me rappeler du passé, mais j'ai aussi une responsabilité de construire le Desjardins des 50, 100 prochaines années. Et si aujourd'hui, Desjardins est en affaires depuis 124 ans, il n'y en a pas beaucoup d'entreprises au Québec qui sont en affaires depuis 124 ans, c'est que Desjardins, l'une de ses plus grandes qualités, c'est sa capacité d'adaptation. Desjardins a toujours été de son époque. Je pense que le rôle d'un chef d'entreprise ou d'un entrepreneur, c'est de regarder sur les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Alors, ce serait ça.
Bien sûr. Vous m'ouvrez une belle porte ici, le rôle du chef d'entreprise, le rôle de l'entrepreneur. Il y a une grande évolution dans les dernières années comme quoi un chef d'entreprise, un dirigeant, un entrepreneur se doit d'être de plus en plus la figure qui va représenter son entreprise. Pas nécessairement simplement en parlant à ses employés ou en parlant des clients, mais également en devenant littéralement une ligne de distribution, en devenant un brand, en devenant quelqu'un qu'on peut voir dans des vidéos, dans des podcasts. Vous vous êtes prêté au jeu. On vous voit sur YouTube avec différents petits créateurs de contenu, un petit peu comme le podcast Hypercroissance. Vous parlez avec des jeunes, vous parlez avec d'autres gens qui font des podcasts. Comment vous voyez le rôle du dirigeant? Pourquoi c'est important à vos yeux de le faire?
Ben, parce que, je vous le disais tantôt, la marque Desjardins, elle est forte au Québec, elle est forte au Canada, et elle inspire les gens par sa proximité. Tout le monde connaît quelqu'un chez Desjardins, tout le monde est un fournisseur, tout le monde... À chaque fois que je rencontre les gens, ils ont toujours une histoire à me raconter sur quelqu'un qui est lié à Desjardins. Alors, cette proximité-là, elle existe depuis 124 ans. Alors, quand je suis devenu président du mouvement Desjardins, pour moi, c'était important d'être un président près des gens, d'être un président qui incarne ce qu'est la marque Desjardins. La proximité, de la simplicité, de l'humain, puis de l'accessibilité. Et c'est pour ça que pour moi, c'est pas d'être un président qui incarne quelque chose par moi-même. C'est vraiment qu'il y a une symbiose entre ce qu'est notre organisation, puis à mes yeux, ce que le président doit être en lien avec ce qu'est cette organisation-là. Et c'est pour ça que, à travers le privilège que j'ai d'être président du mouvement Desjardins, j'essaie de faire des podcasts, je fais des vidéos pour mettre de l'avant des jeunes entrepreneurs, des jeunes entreprises. J'essaie de faire rayonner d'autres organisations. J'essaie de parler d'enjeux qui me préoccupent, que ce soit le logement, que ce soit les inégalités, que ce soit de mieux soutenir notre jeunesse. Parce que je me dis, pendant cette période-là, je suis un porte-voix qui peut avoir de l'impact à travers la tribune qui m'est offerte. Un, je suis payé au départ pour bien gérer Desjardins. C'est mon mandat premier. Mais si, à travers ce qu'est Desjardins au Québec et au Canada, je peux, dans mon rôle, avoir de l'impact sur d'autres dimensions sociales qui peuvent aider des personnes, des communautés, moi, je me sens que ça fait bien partie sûr de mon rôle.
Et vous côtoyez énormément d'entreprises. Pensez-vous que c'est le rôle du dirigeant, le rôle de l'entrepreneur en 2024 de se mettre de l'avant, de faire du contenu, d'être un petit peu, pardonnez-moi l'anglicisme, le cheerleader de l'organisation?
Ben, c'est variable. Je serais prudent avant de dire oui. Je pense que le mandat premier de l'entrepreneur, c'est de gérer son entreprise, de gérer ses employés, puis de réaliser la mission de son entreprise, puis de s'assurer que son entreprise est solide, est pérenne, elle prospère, puis elle réalise ce pourquoi cette personne-là a décidé de lancer son entreprise ou de la gérer. Ça, c'est son premier mandat. Ceci étant dit, aujourd'hui, moi, je le vois de plus en plus, depuis notamment les 4-5 dernières années, puis la pandémie a exacerbé ça. Les gens ont des attentes envers les chefs d'entreprise, que ce soit les employés, au départ, les employés, ils veulent voir leur leader près d'eux, ils veulent voir leur leader parfois prendre position. Ils veulent voir leurs leaders s'engager dans des dimensions sociales, que ce soit la lutte au changement climatique, que ce soit la pauvreté, l'itinérance, tout ça. Alors, on peut pas embrasser toutes ces causes-là en même temps, selon les moyens qu'on a comme entrepreneur. Mais je pense que les entrepreneurs doivent être plus sensibles, effectivement, à ce que les employés s'attendent d'eux, à ce que les parties prenantes autour d'eux s'attendent d'eux, à ce que la communauté dans laquelle l'entreprise opère s'attend. Et oui, dans certains cas, et pas au détriment de bien gérer son entreprise puis de réaliser sa mission, mais oui, dans certains cas, peut-être de s'investir personnellement dans des causes ou dans des dimensions sur lesquelles l'entrepreneur se dit, ben moi, je peux avoir de l'impact dans la société. On peut pas, tu sais, à la fin, on peut pas s'attendre à ce que tous les enjeux de la société ce soit juste réglé par nos gouvernements.
Mais sûr que
et
non.
Que nous, entrepreneurs, entreprises, on gère nos entreprises, on paie nos impôts, puis le gouvernement s'occupera du reste. Les besoins aujourd'hui sont colossaux, puis on le voit là, en santé, en éducation, en lutte au changement climatique, en itinérance, en santé mentale, je pourrais en nommer plein, là. Les gouvernements pourront pas tout régler. Alors, je pense que les entreprises doivent aussi se sentir à la hauteur de leurs moyens, un peu et même très engagées d'en contribuer. Puis c'est ce qu'on fait chez Desjardins. Là. C'est ce que j'essaie de faire là, humblement, ouais. Personnellement.
Fascinant. Monsieur Cormier, avant de terminer sur des questions plus personnelles, j'aimerais vous poser une question. Puis je pense que c'est vraiment important de le mettre de l'avant pour les gens qui nous écoutent. Vous avez commencé caissier. Vous êtes aujourd'hui dirigeant de plus grande entreprise au Québec, ou quasiment la plus grande entreprise au Québec. C'est totalement exceptionnel. Donc, de un, je tiens à vous dire félicitations. Je vous lève mon chapeau.
Merci, c'est gentil.
Qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui qui sont peut-être davantage de la trame d'un entrepreneur dans une organisation, dans une grande organisation et qui aimerait gravir les échelons, les conseils que vous donneriez à cette personne-là?
Écoutez, il n'y a pas de formule magique. Puis il y a autant de chemins, puis il y a autant d'histoires qu'il y a de personnes. Mais moi, ce que je retiens de mon parcours à moi, c'est de bien faire le travail pour lequel tu es payé. Si tu es un entrepreneur, de bien faire ton travail d'entrepreneur pour lequel tu as décidé de te lancer en affaires ou que c'est ta mission comme tel. Commence par bien faire ça. Pourquoi tu te lèves le matin? Puis essaie pas de penser à faut que je fasse ci. Essaie pas d'être où tu veux être dans 10, 15, 20 ans. Là. Oui, donne-toi une vision, mais commence par bien faire ce pourquoi tu as décidé de lancer ton entreprise. Un, c'est pour ça que les gens vont acheter tes produits. Deux, écoutez. Moi, c'est quelque chose que j'ai développé beaucoup. Je disais ou je pensais que j'écoutais dans ma vingtaine. Je pense pas que j'écoutais tant que ça. Je pensais que j'avais raison des fois. Je suis convaincu. Aujourd'hui, la job de président m'a amené à écouter encore plus, à écouter les gens autour de moi, à écouter ce que nos membres et clients disent, à écouter le bruit un peu autour, puis à m'ajuster, à adapter, à réaligner, à repositionner, à faire un pas en arrière, un pas de côté. Donc, écouter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je dirais aussi peut-être de lever la main. De lever la main, de saisir les opportunités, d'oser sortir de sa zone de confort, même si c'est insécurisant. Moi, vous avez devant vous quelqu'un qui a pas mal tout le temps dit oui à toutes les opportunités qui étaient mises sur son chemin. Même les fois où il était pas trop sûr qu'il avait toutes les habiletés ou toutes les compétences ou toutes les connaissances ou qu'il avait tous les outils dans son coffre à outils, on y va quand même, on l'essaye, puis on va s'entourer. Puis le dernier, ben, c'est d'être ouvert au feedback. Honnêtement, quand on est dans les postes d'entrepreneur, quand on est dans le poste de leader, c'est facile. On est tellement sous pression, puis on veut tellement réaliser. Puis parfois, on doit tellement être convaincant et convaincu qu'on oublie un peu le feedback. C'est un peu relié à écouter tantôt, mais plus personnel là, sur notre posture d'entrepreneur, sur notre posture de leader. Donc, comment il faut que je change des choses peut-être dans mes soft skills, dans ma façon de communiquer, Alors, d'être ouvert et d'accueillir le feedback, pas de se fermer, mais d'essayer d'être une meilleure version de nous-mêmes.
Question plus personnelle, vous avez sous votre responsabilité plus de 50 000 employés, de près ou de loin, soyons honnêtes, mais tout de même, c'est le chiffre exact. Qu'est-ce qui vous empêche un petit peu de dormir la nuit? Qu'est-ce qui vous donne un petit peu plus de stress, un petit peu plus d'eczéma?
Ben, vous avez quelqu'un qui dort bien la nuit. Honnêtement, vous avez pas quelqu'un qui dort pas bien la nuit. Je me mets la tête sur l'oreiller puis bang, c'est parti, là. Je dors très bien. Dans mes moments plus stressés, je vais m'élever plus tôt, là. Puis là, je vais me mettre à penser un peu, là. Mais il y a pas tant d'affaires que ça. Mais je vous dirais, actuellement, là, il y a vraiment, on a parlé tantôt, la situation économique et financière de nos membres et de nos clients, de nos entrepreneurs. Ça me préoccupe. Comment on peut les aider encore plus? Qu'est-ce qu'on peut faire des jardins? On était très actifs dans le logement abordable. Ça, c'était justement l'objet de réflexion. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la crise du logement au Québec? T'sais? Alors, donc ça, Donc, tout ce qui est là un peu situation financière de nos membres et de nos clients, ça me turlupine tout le temps là, pour me dire, OK, qu'est-ce qu'on fait de mieux? Comment on peut les aider, tout ça? L'autre, c'est les jeunes. Ça, les jeunes, ça me préoccupe beaucoup parce que je pense qu'on flirte avec l'inégalité intergénérationnelle, que ce soit le logement, que ce soit la capacité d'épargner, que ce soit la capacité de démarrer sa vie. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dans la trentaine que dans la vingtaine pour les générations précédentes. Ça, c'est du patrimoine qu'on accumule pas pendant peut-être 10 ans de moins. Donc, ça aussi, ça me préoccupe. Comment je peux? C'est pour ça que j'essaie d'être aussi engagé envers la jeunesse. Comment on peut donner un coup de main? Puis le troisième élément, c'est tout ce qui touche la prospérité collective. On a au Québec un endroit où, depuis des décennies, on a réussi à trouver un bon équilibre entre générer de la richesse et se la partager pour se donner des services, pour se donner des filets sociaux qui nous aident. Aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup sous pression, ça. Et pas seulement la capacité de partager cette richesse-là, mais de la générer, cette richesse-là. Alors, comment Desjardins, comment je peux être un acteur à travers qui nous sommes pour contribuer à générer de la prospérité, mais collective, qui par la suite, après, dans nos milieux, dans nos communautés, tu sais, l'exemple de l'engagement de Desjardins à plus de 500 millions par année qui redonne en ristourne au bénéfice de la collectivité, ben c'est ça aussi. On génère de la prospérité comme coopérative financière, on en retourne une bonne partie à nos membres et à nos clients. Donc, comment on fait ça maintenant d'un point de vue de société? Ça me préoccupe beaucoup.
Intéressant. Et comment vous faites peut-être un petit peu pour recharger vos batteries? Est-ce que vous avez des routines personnelles à l'extérieur du bureau qui vous aident à vous détendre, à penser à autre chose?
Ah, écoutez, deux choses. Le sport. J'étais un fan de hockey. Je joue au hockey encore à chaque semaine.
Oh, wow.
Tous les vendredis soirs. J'adore jouer au hockey. Plus d'autres exercices, jogging, monter des montagnes, tout ça. Ça, c'est vraiment le premier élément qui m'aide à relaxer. Puis le deuxième élément, c'est la famille. Mes quatre, Julie, mon épouse, les quatre jeunes adultes qui ont entre 28 et 32, une petite fille qui est arrivée dans le portrait il y a quelques mois. Donc, me reconnecter avec la famille, un bon souper avec les jeunes, on jase. Ils me permettent mes jeunes et mon épouse me permettent de rester terre à terre et groundé sur la réalité du vrai monde là, et du monde tout court. Là. Alors, moi, ça me fait bien du bien.
Micormier, merci beaucoup d'avoir pris du temps aujourd'hui avec les auditeurs du podcast Hypercroissance. C'est assez intéressant. Je suis même honoré de vous avoir sur le podcast. Je vous remercie énormément d'avoir partagé cette évolution-là qui, je pense, était peut-être méconnue pour beaucoup d'entre nous, de savoir que vous avez commencé comme caissier, que vous avez monté les échelons un après l'autre. Je le répète, je vous félicite pour tout ça. Si on veut en apprendre plus, j'imagine votre site web, c'est le meilleur endroit pour rejoindre Desjardins.
Absolument. Puis merci Antoine pour toi de m'avoir donné ce privilège-là de pouvoir échanger avec toi puis avec tous vos auditeurs. Bravo pour ce que tu fais parce que ça démystifie le monde de l'entrepreneuriat puis j'espère humblement avoir pu aider aujourd'hui tout simplement. Merci beaucoup, beaucoup.
J'en suis certain. Guy Cormier, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.